VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Brazzaville au Congo. Le responsable d'une ONG belge expulsé du Burundi. Le visa de l'employé de l'ONG 11-11-11 a été annulé de manière inattendue. Explique un communiqué de l'organisation précisant que le coordinateur de l'ONG au Burundi, un ressortissant belge, a effectivement quitté le pays depuis lors. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année. L'ex-président de l'Assemblée nationale centrafricaine destitué vendredi, Karim Bekaswa, a appelé dimanche au calme et qualifié sa destitution de coup de force contre la Constitution dans un discours prononcé dans le quartier du PK5 de Bangui, qui abrite la majorité des musulmans de la capitale. Vendredi soir, le président de l'Assemblée, Karim Bekaswa, député musulman, avait été destitué par les députés centrafricains. Fin dimanche à Brazzaville, des assises de la presse congolaise qui a réuni du 25 au 28 octobre des journalistes et des professionnels et experts de la communication pour réfléchir sur l'avenir des médias dans ce pays. La question du financement de la presse a été au centre des débats. Discussion selon Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Il s'agit de faire le point 26 ans après la tenue des premiers états généraux de la presse congolaise. Des médias de la débrouillardise et des journalistes vivant dans la précarité n'hésitent pas de commenter les consommateurs et même les professionnels de l'information eux-mêmes. C'est pourquoi Philippe Mouveau, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a voulu que ces assises de la presse se tiennent.
L'arrivée des nouveaux médias, il va de soi que le système de diffusion, le système de fonctionnement, même administratif des médias, a totalement changé et commande aujourd'hui une nouvelle manière, un nouveau management des médias. Et c'est ce que nous voulons justement faire. Or, nous avons fait un constat sévère, mais vrai, qui dit notre réalité, nous ne l'avons pas caché. Notre système aujourd'hui est malade et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faille apporter très rapidement des remèdes.
La question du financement de la presse congolaise par les pouvoirs publics a été fondamentalement abordée au cours de ces assises. André Barry, directeur de publication de Paris Africain, est hebdomadaire par sont à Brazzaville.
La presse en général, nous vivons dans la précarité et ces assises sont les bienvenues et nous pensons trouver la solution au sortir d'ici.
Il faut que l'État budgétise désormais l'aide à la presse, appelle Edouard Adzotsa, journaliste à la retraite, aujourd'hui responsable du syndicat de la communication.
Étant donné que les médias ont un rôle de sensibilisation, de formatage des consciences, je crois que l'État devrait prendre le relais en les aidant. C'est une obligation. Il ne faut pas voir que non, parce que c'est commercial ou c'est comme ça. Non, justement, à travers des mécanismes. Il ne s'agit pas de jeter de l'argent, non, il s'agit d'aider les médias qui répondent aux critères.
Malgré les critiques, Clotaire Yimbou de l'Association des éditeurs de presse reconnaît les avancées significatives réalisées par la presse congolaise.
En premier temps, un club de la presse libre qui a permis d'obtenir un centre de formation post-universitaire, ça c'est quelque chose d'important. Nous avons pu obtenir au niveau des associations la convention collective des journalistes du secteur privé.
Quoi qu'il en soit, la presse connaît encore de nombreux défis, notamment celui lié à la migration vers la numérisation. Idriss Bosoto est formateur en journaliste 2.0.
Au niveau des médias publics, c'est encore plus complexe parce que la migration en ligne suppose l'adoption de nouveaux métiers. Alors que nous savons que dans nos médias traditionnels, les nouveaux métiers ne sont pas encore intégrés et les nouveaux métiers ne sont pas encore adoptés.
Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala, a souhaité que les journalistes s'approprient très rapidement les recommandations issues de ces assises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé a signalé dimanche 6 nouveaux décès en 2 jours dans la 10e épidémie d'Ebola à Beni, dans l'Est, portant à 170 le nombre de décès sur 267 cas recensés. Au total, 267 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 232 confirmés et 35 probables, et un total de 170 décès selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé daté de dimanche. La veille, le bilan actualisé avait fait état de 164 décès sur 257 cas de fièvre hémorragique enregistrés dans la région de Beni. Les djihadistes de Boko Haram ont lancé une importante attaque contre une base militaire dans le nord-est du Nigeria, tuant un soldat, ont annoncé dimanche des responsables de la défense. Avec le soutien d'hélicoptères, les forces régulières nigérianes ont forcé les terroristes de Boko Haram à battre en retraite. Un soldat a été tué au cours de l'attaque et 4 ont été blessés selon un communiqué posté sur Twitter. Cette attaque est la 2e en un mois contre la ville de Gachga. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, âgé de 21 ans, sera le candidat du FLN, le Front de Libération Nationale, son parti à la présidentielle prévue en avril 2019. L'information a été donnée hier soir par le patron du FLN, Gamel Ould Abbès. Le secrétaire général du FLN a fait cette déclaration lors d'une cérémonie en l'honneur du nouveau chef du groupe parlementaire du parti, Mohamed Bouabd Dalla.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il se nomme Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite, a été officiellement déclaré dimanche soir élu à la présidence du Brésil au terme d'une campagne électorale sous forte tension qu'il a axée sur la lutte contre la corruption et la criminalité. En dépit d'un recul de dernière minute dans les intentions de vote, le candidat du Parti social-libéral s'impose donc finalement largement au second tour face à Fernando Haddad, son adversaire du Parti des travailleurs. Il est crédité de 55,2% des voix contre 44,8% pour son rival, selon le tribunal supérieur électoral. Dans ses premières déclarations, il a annoncé qu'il gouvernerait la 4e démocratie la plus peuplée au monde en s'appuyant sur la Bible et la Constitution. Il a également annoncé que toutes ses promesses de campagne seraient tenues. Les Américains ont découvert dimanche l'identité des 11 fidèles abattus la veille dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie lors de la pire attaque antisémite jamais perpétrée aux États-Unis. Bagasikura.
3 femmes et 8 hommes, quasiment tous âgés de plus de 60 ans, ont succombé sous les balles de Robert Bowers, un homme blanc de 46 ans qui a, selon son acte d'accusation, expliqué après son arrestation, je cite, « Je voulais juste tuer des Juifs ». Drapeau en berne, veillée d'hommage à Pittsburgh et ailleurs, cérémonie œcuménique, la communauté juive des États-Unis, la plus importante en dehors d'Israël, a reçu le soutien de tout le pays, mais aussi du pape, de Berlin ou Paris. Armée de 3 pistolets Glock et d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, Robert Bowers a sémé la mort samedi dans la synagogue Tree of Life, en plein cœur du quartier juif de Pittsburgh, qui abritait plusieurs offices religieux en ce jour de Shabbat, le repos hebdomadaire juif. David et Cécile Rosenthal, des frères âgés de 54 et 59 ans, qui vivaient ensemble dans un centre pour adultes ayant des déficiences intellectuelles, sont tombés sous les balles de Robert Bowers. Les 9 autres victimes avaient plus de 65 ans. La plus âgée, Rose Malinger, une résidente du quartier, avait même 97 ans. Le médecin légiste qui procède à des autopsies dans le respect des lois civiles et religieuses espérait hier pouvoir rendre les premiers corps à leur famille dans la journée.
Et des milliers de personnes en deuil ont donc participé à une veillée hier en hommage aux victimes de la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh lors de laquelle un homme armé a ouvert le feu sur deux groupes de personnes en majorité âgées a déclaré qu'il voulait que tous les juifs meurent. L'ancienne première ministre du Bangladesh et chef de l'opposition Khaleda Zia, qui purge déjà une peine de 5 ans de prison, a été condamnée lundi à 7 ans de prison dans une autre affaire. 3 fois chef de gouvernement de cette nation, Madame Zia a été déclarée coupable à Dhaka d'abus de pouvoir lié au détournement de 3,1 millions de taka, c'est-à-dire 329 000 euros destinés à une organisation caritative. Un kamikaze à pied s'est fait exploser tôt lundi près d'un véhicule alors qu'il pénétrait au siège de la Commission électorale indépendante, la CEI, à Kaboul, en Afghanistan, blessant au moins 6 personnes. L'explosion s'est produite à 20 mètres des voitures des employés de la CEI, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police. 4 employés de la CEI et 2 policiers ont été blessés, selon lui. Et puis un Boeing 737 de la compagnie Lion Air, qui transportait 189 personnes, s'est abîmé lundi matin au large des côtes indonésiennes et a coulé en mer peu après son décollage de Jakarta. L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi et bon début de semaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.